C'est le moment Gestalt.
Gestalt Moment.
Gestalt Moment.
Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode Gestalt avec Joseph à la régie. Et on est réunis pour échanger avec nos invités sur l'accès aux soins aujourd'hui en France pour les personnes trans, non-binaires ou en questionnement. Quels constats pouvons-nous poser aujourd'hui sur les types d'accompagnement et d'écoute existants et quelles en sont les limites ? On va ce soir penser les enjeux qui sont liés à une nécessité de faire exister des espaces qui répondent au plus près des besoins de tous et de toutes. Quelle forme ça peut prendre, avec qui et comment. Alors, on va parler de tout ça ensemble. On a avec nous Niloufar Forneau. Bonjour Niloufar.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et en troisième année de thèse de doctorat. Vous dites étudier les trajectoires de soins psychiques de personnes trans et non-binaires grâce à l'utilisation d'une approche transculturelle et complémentariste. Et dans ce contexte, vous intervenez en milieu associatif et hospitalier trans, et donc afin de saisir les relations complexes entre personnes trans et professionnels de santé mentale. Et votre sujet de thèse depuis 2020 se nomme « Transitude et accès aux soins, paroles d'adolescents et de jeunes adultes trans sur leur trajectoire de soins psychiques ». On a parmi nous aussi Chiara Balem.
Bonsoir.
Bonsoir. Chiara, vous êtes psychologue clinicienne en cabinet libéral et sexologue en fin de formation. Et vous intervenez d'ailleurs aux côtés de Niloufar Forneau en tant que bénévole à la permanence d'écoute psychologique hebdomadaire de l'association Espace Santé Trans. Ainsi, vous agissez pour faire la promotion de la santé des personnes trans situées en Île-de-France. On parlera bien sûr de l'association et de vos activités au cours de l'émission. Et on est avec nous aussi avec Anaïs.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous représentez l'association en tant que directrice d'Outrans. Donc c'est une association féministe d'autosupport trans pour les personnes transmasculines, transféminines, non-binaires, en questionnement et pour leurs alliés cisgenres, issus de la communauté transmasculine. J'ai repris la définition de l'association, typiquement.
Elle reste toujours d'actualité, même si l'association a 15 ans. Comme quoi, déjà, il y a 15 ans, c'était bon.
Merci d'être avec nous. On va parler pendant cette heure d'émission. Alors voilà, il y a eu une introduction un peu alambiquée, un peu compliquée de se mettre dans le bain. Mais voilà, typiquement, ce que j'avais envie d'échanger avec vous, le sujet était de penser l'accès aux soins en prenant le sujet de votre thèse en premier lieu, Niloufar. Le but, c'est de voir comment on peut réfléchir ensemble sur ce sujet. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre travail de thèse et le sujet de votre thèse ?
Oui, en quelques mots, je vais essayer. Je vais essayer d'être concise. Moi, je suis partie vraiment d'un constat assez tôt dans mes études, ce qui était que moi, je constatais que dans mon environnement plutôt quotidien, mais que j'avais des personnes trans qui avaient parfois des difficultés dans leur vie personnelle et pour autant qui n'allaient pas du tout voir les professionnels de santé mentale. Et moi, je me demandais, mais pourquoi ? Pourquoi cette difficulté ? Par ailleurs, pourquoi des violences qui pouvaient être parfois dénoncées, reproduites ? Moi, c'est ce qui m'interrogeait un petit peu au début. Et du coup, j'ai un peu approfondi ça du coup, en thèse de doctorat. Et donc, j'ai rencontré des personnes trans, donc c'est-à-dire des personnes qui ne se sentent pas appartenir à leur genre qui a été assigné à la naissance, qu'elles soient binaires ou non-binaires. J'ai rencontré donc des personnes mineures et majeures, et aussi des parents d'enfants trans. Et du coup, mon idée, c'était d'explorer un petit peu comment se construisent ces parcours de soins psychiques, comment se construisent ces trajectoires. Voilà, et comment essayer de comprendre ces relations qui sont complexes entre professionnels de santé mentale et personnes trans, et voir aussi qu'est-ce qui peut être développé à côté, qui peut faire aussi du bien aux personnes trans et qui n'a rien à voir avec les psys aussi.
Mmh. Comment vous avez développé ce travail ? Comment vous avez mis ça en place ?
Alors, comment j'ai mis ça en place ? Du coup, d'un point de vue plutôt méthodologique.
Ouais.
Donc moi, j'utilise une méthodologie qualitative, exploratoire, et j'utilise d'un point de vue théorique une méthode donc complémentariste, qui veut dire que j'utilise différents champs théoriques, notamment de la psychologie, de la psychanalyse aussi, mais pas mal de sociologie, et aussi je m'appuie sur les études trans, donc c'est-à-dire des études qui ont été... c'est un champ interdisciplinaire qui est mené par des personnes trans, pour des personnes trans. Donc voilà, je m'appuie un peu sur tout ça et j'utilise une méthodologie qu'on dit ancrée, donc la méthode d'analyse par théorisation ancrée, qui est une méthode issue de la sociologie et qui a pour but d'essayer de saisir un petit peu à partir de récits subjectifs, de mettre à jour des réalités un peu plus sociales aussi. Voilà, et comment ça fonctionne concrètement? On a la possibilité d'utiliser tout un tas d'outils. Moi, pour le coup, dans ma recherche, ça a été des entretiens de recherche, mais aussi beaucoup d'observations, de l'observation en milieu hospitalier, donc dans des services hospitaliers qui sont spécialisés, entre guillemets, dans l'accompagnement des personnes trans, et aussi dans les associations. Et donc, mon idée, c'était vraiment de saisir vraiment de l'intérieur comment les professionnels qui sont soi-disant spécialisés dans l'accompagnement des personnes trans travaillent, comment se fait la rencontre, quelles sont les difficultés parfois, quelles sont les représentations qui circulent auprès des professionnels dans l'accueil des personnes trans, et aussi du côté des associations, voir quelles sont les revendications, voir comment elles accompagnent les personnes trans, puisque finalement les personnes trans, pas toutes, mais en tout cas pas mal, peuvent passer par ces espaces-là, donc hospitalier, associatif, voilà, donc des observations, des entretiens de recherche aussi. Donc j'ai rencontré des personnes trans et aussi des parents à qui j'ai donné la parole et avec qui j'ai échangé sur leur parcours de vie, sur leur trajectoire de soins. Voilà, et donc cette méthodologie, ce que j'apprécie dans cette méthodologie, c'est qu'elle me semble plutôt éthique et respectueuse de la personne de la parole des personnes concernées, puisqu'il s'agit vraiment de recueillir une parole et ensuite de modifier le guide d'entretien en fonction des entretiens précédents. Et en fait, on adapte en permanence au terrain. C'est vraiment collé, le plus proche du vécu des personnes.
Et complètement adaptatif en fonction de la personne.
Complètement adaptatif, tout à fait.
D'accord.
Et du coup, la théorie aussi vient dans un second temps. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de partir de ce qu'on observe, de ce qu'on découvre sur le terrain et ne pas partir, en tout cas à la mesure du possible, avec des présupposés et préjugés théoriques.
En parlant de préjugés, de présupposés théoriques, parce que je pense qu'il y a quelque chose justement à penser en ce tout début d'émission, Anaïs, je t'invite à nous parler justement de ce qui a été relevé tout à l'heure en début d'émission, avant tout juste de commencer. C'est effectivement, est-ce qu'on parle directement, tout de suite et frontalement de souffrance, directement en trajectoire de vie ou pas?
C'est-à-dire qu'on a des biais quand on parle de transidentité, parce qu'on a une vision nous-mêmes en tant qu'association de personnes qui vont proportionnellement par rapport à l'ensemble de la population trans faire un peu plus de transition médicale, parce que les personnes viennent nous voir par besoin d'avoir des adresses de médecins par exemple, ou de savoir quel parcours médical faire. Les médecins ne voient que des personnes trans qui veulent faire des parcours médicaux, les chirurgiens que des personnes trans qui veulent faire des opérations. Et donc finalement, les gens qui parlent des personnes trans, c'est les personnes qui les rencontrent, et les personnes qui les rencontrent ont un biais de médicalisation. Or, quand on regarde plus le côté un peu statistique qui peut se faire autour des transidentités, il y a Ipsos qui a fait une étude en juin dernier qui parlait de 4% de la population qui s'inclut dans le spectre différent du genre cis, enfin dans le spectre du genre de façon plus globale, personnes trans, personnes non binaires et dans le spectre du genre. Et si on regarde les chiffres les plus élevés sur le nombre de personnes qui sont en interaction avec des systèmes de santé, quels qu'ils soient, c'est 0,4% de la population. Donc on a un différentiel énorme entre des personnes trans qui finalement réussissent à vivre leur transidentité peut-être de façon très intime, très personnelle, sans la rendre publique, certaines personnes qui la rendent publique sans avoir besoin d'avoir des accompagnements par les professionnels de santé, et puis les personnes qui sont en lien avec les professionnels de santé. Donc il faut toujours faire attention avec les parcours types par rapport au parcours que nous on peut voir et la réalité de la diversité de ce que peuvent être les transidentités. Et c'est aussi pour ça qu'on pousse beaucoup pour la place des associations dans ces enjeux de transidentité et des associations plus spécifiquement trans par rapport à des associations plus généralistes LGBTQIA+, qui pourraient avoir des personnes trans, c'est que c'est pas parce qu'on est une personne trans qu'on a une vision de ce qu'est la transidentité, c'est même pas parce qu'on est 10 ou 20 personnes trans qu'on a une vision de la transidentité. On commence à avoir une petite idée de la transidentité quand une association va avoir beaucoup de personnes en interaction. Ou trans, on a 1300 mails différents, enfin personnes qui nous contactent tous les ans pour l'autosupport. Sur les groupes de parole, on a à peu près 100-150 personnes qui sont tous les mois dans les différents groupes de parole que l'on peut avoir. Donc on commence à avoir une petite idée, mais on n'a même pas la prétention d'avoir l'exhaustivité de ce que peuvent être les parcours des personnes trans, parce qu'encore une fois, on a ce biais-là. Et on va y rajouter un autre élément qui résonne beaucoup avec ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a historiquement une vision de la transidentité exclusivement psychiatrique. Mmh. Il faut juste comprendre que la transidentité, d'un point de vue strictement médical, jusqu'au 1er janvier 2022, était considérée par l'OMS comme une pathologie mentale. Donc la sortie des transidentités des troubles mentaux, c'est le 1er janvier 2022 au niveau de l'OMS pour sa mise en application. C'était voté en 2019. Juste pour donner une idée comme ça de temporalité, c'est dans la CIM 11 de l'OMS, donc classification internationale des maladies 11, la précédente, la CIM 10, était rentrée en vigueur au 1er janvier 1993, il y a 29 ans, et elle portait la dépsychiatrisation de l'homosexualité. Ouais. Donc on a cette idée-là qu'aujourd'hui, sur la transidentité, on en est là où on était il y a 29 ans sur l'homosexualité en matière de compréhension en tant que pathologie mentale. Donc bon, maintenant, j'espère que la plupart des personnes qui nous écoutent ne pensent pas que l'homosexualité soit une pathologie mentale. Ça serait bien que les mêmes personnes se disent « Ah ben, la transidentité n'en est pas une non plus ». Mais du coup, il y a aussi une violence du système médical qui n'a accepté de prendre en charge les personnes trans que les personnes trans qui arrivaient sur une pathologie ou sur des troubles ou sur des souffrances aiguës. Et il y en a encore énormément de médecins qui pensent que les seules personnes trans qui doivent être prises en compte doivent être les personnes qui montrent une souffrance aiguë. Okay. On parle même de détresse cliniquement significative si on reprend les termes de la dysphorie de genre dans le DSM-5. Donc on a un vrai sujet autour de ça, de sortir de cette idée que la souffrance est une condition sine qua non de la prise en charge des personnes trans.
Ouais, parce que ça dans les pratiques aussi, ça implique que beaucoup de personnes vont avoir tendance à essayer de se présenter d'une certaine façon pour essayer de correspondre à ces représentations-là, ce qui fait que du coup les médecins et les professionnels continuent de voir les mêmes discours, les mêmes représentations de la transidentité, alors même que c'est bien plus divers que ça. Donc c'est très compliqué de pouvoir en sortir, et moi c'est ce que j'ai pu identifier dans mes entretiens et dans ma recherche, c'est qu'on en est... C'est exactement les mêmes discours que les personnes reproduisent auprès des professionnels de santé et de santé mentale qu'il y a une trentaine d'années, voire avant. C'est exactement les mêmes. Ça bouge très très peu à cet endroit-là. Il y a vraiment quelque chose qui reste figé dans la rencontre, ce qui maintient vraiment cette vision monolithique dans les systèmes hospitaliers de ce que serait la transidentité. Et c'est difficile d'en sortir. Et ouais, voilà.
Je vais juste reprendre, et je ne vais pas monopoliser, mais cet enjeu-là, il est très important. On le voit dans les groupes de parole, sur les groupes de parole pour les personnes trans ou en questionnement, par exemple. On a beaucoup de personnes qui disent « mais moi, je ne suis pas légitime à engager ma transition parce que je n'ai pas l'impression de souffrir, en tout cas, pas assez, pas suffisamment ». Et c'est un vrai sujet, parce qu'il y a tellement d'images de la transidentité souffrante que... et puis, on sait, on n'ignore pas, et on le sait, et on la vit tous les jours, qu'il y a une transphobie dans la société qui est particulièrement forte, et l'origine de la souffrance vient de là. On ne l'ignore pas du tout. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent « bah oui, moi je suis installé dans ma vie, j'ai pas trop d'enjeux par rapport à ça, je veux faire ma transition, mais voilà, ça peut être cool, mais j'ai pas l'impression de souffrir. » Et donc finalement, je peux peut-être faire avec, mais en fait, c'est là où c'est le pire, parce que c'est là où les personnes vont rentrer dans un engrenage qui, là, pour le coup, va avoir une incidence sur la santé mentale qui peut être extrêmement forte.
Oui, il y a un engrenage et quelque chose qui est de l'ordre d'une vision psychiatrisante encore aujourd'hui, qui enferme complètement. Mais alors du coup, ça veut aussi peut-être dire qu'il y a un problème dans l'échange et dans la relation aussi avec les professionnels de santé aujourd'hui. Pourquoi c'est aussi complexe et aussi figé ?
Voilà, c'est aussi très très vaste, je pense, comme question. Mais il y a plusieurs points. Il y a l'idée déjà, je pense qu'il y a un manque de formation dans les formations initiales. Enfin, vraiment, les professionnels ne sont pas formés. Ça rejoint aussi une forme d'invisibilité sociale du vécu et des besoins des personnes trans dans la population générale. Mais du coup, ça infiltre forcément les formations en santé, en psychologie. Dans nos formations, on n'a jamais entendu parler de transidentité, ou alors sur un biais, avec un point de vue plutôt pathologisant. Donc, il y a la question des formations. Je rajouterais aussi la question de... pouvoir soi-même aussi se questionner sur, en tant que professionnel, son propre rapport au genre, à la sexualité, pouvoir questionner ses propres représentations de ce que c'est que la transidentité, qu'est-ce qu'on en a forcément, parce qu'on est dans une société, on est situé, ça nous infiltre, pouvoir se questionner dessus, parce que sinon, forcément, la remise en question des catégories de genre par les personnes trans, ça vient toucher, ça peut venir créer chez les professionnels de la fascination, des angoisses, et ça peut, dans la rencontre, entraîner des violences, je pense, ou en tout cas des questions qui peuvent être dénoncées par les personnes comme intrusives. Voilà, des situations qui peuvent être très inconfortables, voire très violentes. Voilà, je ne sais pas si vous pensez...
Il y a des choses complémentaires. Après, la question, c'est est-ce qu'on sait spécifiquement sur les professionnels de santé mentale ou si sur tous les professionnels de santé ?
Oui,
parce que ce qui est valable sur les professionnels de santé mentale, sur l'absence de formation, est valable sur tous les professionnels de santé. Alors, on espère pouvoir y remédier peu à peu, parce qu'il y a dans le plan de la DILCRA 2023-2026 l'idée d'ajouter dans les cursus des professionnels de santé une sensibilisation sur les enjeux LGBTQIA+. Bon, on espère que ce soit plus qu'une sensibilisation, mais ça veut dire que ce sera à partir de la rentrée 2025 et ce sera pour les médecins qui sortiront dans 10 ans, enfin 10 ans plus tard, donc dans 12 ans. Donc on a énormément de retard et on prend ce retard-là et on y ajoute le fait qu'il n'y a aucun cadre de prise en charge et de prescription des personnes trans parce que la Haute Autorité de Santé n'a jusqu'à présent pas sorti de recommandations. On y travaille, mais pour le moment rien n'est sorti dans ce sens-là. Donc c'est très compliqué pour un professionnel de santé de s'engager dans la prise en charge des personnes trans parce qu'il n'y a pas forcément eu de formation initiale, il n'y a pas de formation continue, il n'y a pas d'information qui est donnée par la Haute Autorité de Santé ou les organismes d'État qui donnent normalement le cadre de prescription, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché pour les hormones pour les personnes trans. Donc en fait, c'est très 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 compliqué, ce qui fait que nous, quand à un moment on n'avait plus d'adresse à donner, on a appelé 60 endocrinologues en région parisienne parce qu'il en manquait, on n'avait pas, et on leur a posé la question de savoir est-ce que vous prenez en charge des personnes trans. Sur les 60, il n'y en a que 5 qui prenaient en charge des personnes trans. Les autres disaient qu'ils s'y connaissaient rien en hormones, ce qui est un peu embêtant quand on est un endocrinologue, mais sur l'enjeu, c'est ce qui est valable sur les endocrinologues, c'est la même chose sur les médecins. Tous les médecins peuvent faire de la prescription d'hormones féminisantes, il n'y a aucune limite ni médicale ni légale à ce que ça puisse se faire. Sur les 10 000 médecins généralistes qui sont en activité selon le site Amélie sur le Paris région parisienne, il y en a peut-être 30, allez, large, 40 qui acceptent de faire des primo-prescriptions pour les personnes trans. Et encore, ces 30 ou 40, c'est parce que les associations, nos associations, Espace Santé Trans ou Trans Accept ST, au sein du réseau de santé trans avec le FLIRT, on a fait de la formation des médecins. Et si on n'avait pas fait cette formation des médecins, on aurait 4, 5, pas plus.
Mais alors ça va du coup paraître très naïf comme question, mais pourquoi c'est si peu ? Pourquoi c'est aussi compliqué ?
Parce qu'il n'y a pas de cadre légal, parce qu'il n'y a pas de cadre de prescription, parce qu'il y a un risque de prescription hors autorisation de mise sur le marché, parce qu'il n'y a pas eu de formation initiale et parce que les médecins se disent « mais moi je suis déjà débordé, on est quand même dans une période où le Paris même est un désert médical, donc les médecins se disent « moi je suis débordé, de toute manière je suis déjà ras la gueule, donc je ne vais pas prendre en plus des personnes trans s'il faut que pour une personne j'aille m'auto-former, aller récupérer les quelques médecins qui l'ont fait. » On est en train de travailler là sur la finalisation d'une étude qui s'appelle Forest avec dans l'association Outrans, sur justement pourquoi des médecins aujourd'hui dans ce cadre-là, ou des professionnels de santé, parce qu'on va plus large que strictement les médecins, acceptent de prendre en charge les personnes trans. Et quand on regarde les motivations qu'il y a, c'est des motivations très individuelles, très personnelles, très militantes finalement, de dire bah, « je me suis engagé parce qu'il fallait faire un accès aux soins ». Et ça signifie que ça, c'est un engagement très lourd, parce qu'il a fallu que j'aille m'auto-former, que j'aille récupérer des études en médecine, que j'aille regarder tous les côtés, et que j'essaye de me débrouiller, parce que s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, je ne sais pas comment faire.
Ouais.
Donc, encore une fois, on prend la main au sein du réseau de santé trans pour mettre les médecins en réseau de façon à ce que les prescriptions soient sécurisées, et on en a plus, mais on est une goutte d'eau dans un océan. Il faut comprendre qu'on est dans cet état-là aujourd'hui, et il est temps qu'on bascule complètement les choses pour que tous les médecins soient obligés de prendre en charge les personnes trans et que, mais pour ça, il va falloir leur donner de l'information, les accompagner, les former et le chantier s'ouvre maintenant.
Je pense que du coup, il y a aussi pour les personnes trans, là, quels que soient les soins de santé mentale ou autres, de santé somatique, mais il y a vraiment cette peur de la transphobie et des violences, et de façon plus large, d'un discours de méfiance, d'un trauma communautaire, en fait, à l'égard du système de santé, qui fait que les personnes, les personnes trans consultent très tardivement, en fait. Et du coup, elles ont une santé globale qui est plus détériorée. Elles consultent que lorsque elles sont dans une situation d'urgence, enfin, pour une partie. Et du coup, ça, c'est aussi très... très compliqué, parce que je pense que ça aussi entraîne la surreprésentation aussi des personnes trans qui souffrent de leur santé mentale aussi, puisqu'elles consultent que dans ces moments-là, dans des moments de crise.
D'où cette idée d'engrenage dont vous parliez aussi ensemble.
Et puis je pense qu'il y a aussi toute la question du manque de moyens financiers, humains pour les services qui accompagnent des personnes trans, mais aussi manque de moyens financiers pour les personnes trans qui veulent consulter en ville parce que les services hospitaliers sont complètement saturés, parce que il y a 2 ans de liste d'attente pour pouvoir avoir accès à un premier rendez-vous pour être accompagné pour entamer sa transition. Il y a un désert médical en fonction des régions aussi.
Oui, c'est ce à quoi je pensais effectivement. Il y a aussi cette question de ne pas habiter en ville non plus. J'imagine que y a de véritables enjeux aussi à cet endroit.
Et c'est pour ça qu'on se bat fortement pour qu'on puisse accéder aux droits communs. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que il faut pas qu'il y ait une santé spécialiste des personnes trans, parce que déjà les personnes trans sont des êtres humains comme les autres, et il n'y a pas d'enjeu par rapport à ça. Et puis en plus, c'est une sorte de tarte à la crème, c'est-à-dire que vous avez un centre spécial. Bon, alors pour tout, même des choses qui n'ont rien c'est à ça. Voir avec votre transidentité, allez à ce centre spécial. Donc si on n'habite pas à Paris, il faut aller à Paris. Si on n'habite pas à côté d'un centre, il faut traverser la France. Et donc il n'y a que quelques personnes qui pourraient y aller, ce qui est juste inimaginable. Et puis de façon générale, il y a un enjeu de santé publique. Il faut que les médecins prennent en charge les personnes trans. Et donc que pour ça, ils et elles soient non seulement sensibilisés, mais aussi un petit peu obligés d'une certaine façon, parce qu'il faut qu'on avance sur ces points-là et de dire oui, vous devez prendre en charge les personnes trans. Et si vous ne le faites pas, c'est du refus de soins. Aujourd'hui, si un médecin prend en charge une personne trans, il a plus de risques de se faire attaquer au Conseil de l'Ordre des médecins parce qu'il y a des avocates qui sont grassement payées pour attaquer tous les médecins qui prennent en charge les personnes trans. Au final, les médecins gagneront, mais ça décourage énormément de médecins. Si on est médecin, qu'on accompagne des personnes et puis qu'on se tape en première instance au Conseil de l'Ordre, comme ça a été le cas il y a un mois en Alsace, une condamnation, même si la condamnation au final au national reviendra de façon positive, ça va décourager de toute façon et ce médecin-là et tous les médecins alentours pour avancer sur ce point-là. Et il ne faut pas croire que sous prétexte qu'on arrêterait de donner de l'information et qu'on dit aux médecins « non, on reste dans ce statu quo-là », les personnes trans ne font pas leur transition, les personnes qui veulent faire des transitions médicales le feront, mais le feront comme c'est le cas aujourd'hui, en faisant de l'automédication, en allant acheter en Bitcoin sur Internet des hormones, en faisant du partage d'ampoules pour les personnes transmasculines, en tout cas en passant en dehors d'un système de santé. Et là, c'est pire encore, parce qu'une fois qu'on s'est engagé là-dedans, on dit « je ne vais pas aller voir un médecin pour un enjeu de santé qui n'a rien à voir, parce que je n'ai pas envie de lui raconter que je me fais des piqûres de trucs que j'ai achetés sur Internet en Bitcoin ».
Donc là, en l'occurrence, si on pense à ça, il y a aussi tous les autres aspects dont on parlait aussi. Là, on parle que de l'aspect de santé, mais je sais que ça touche aussi plein d'autres aspects de la vie où il y a déjà ces combats-là aussi et ces réflexions qui sont compliquées. Il n'y a pas que au niveau de l'espace de santé.
On confirme.
Chiara, tu interviens, vous intervenez, on va rester sur le voie, c'est compliqué,
mais
on va rester sur le voie. Vous intervenez dans l'association Espace Santé Trans. On va un petit peu parler tout à l'heure des dispositifs, mais j'avais envie de savoir comment se passent vos activités, comment vous intervenez dans l'association, sur quoi vous travaillez spécifiquement.
Alors moi, je suis bénévole sur la permanence psychologique de l'association.
D'accord.
Donc on est 8 psychologues en ce moment et on accueille tous les vendredis après-midi sur 4 créneaux d'une heure une personne trans ou en questionnement sur son genre. L'idée c'est que c'est une permanence bénévole qui est gratuite, qui est accessible à toute personne qui se questionnerait sur son genre ou qui serait en parcours de transition déjà. C'est un peu nos actions. Après, nous, ça c'est juste la permanence psychologique. L'association Espace Santé Trans a de nombreuses autres propositions d'accompagnement.
En tout cas, il y a des dispositifs existants tels que les associations et on va penser aussi aux autres formes de dispositifs qui existent peut-être. J'aimerais bien savoir justement s'il y a uniquement des associations ou d'autres espaces qui réfléchissent à ce dont on est en train de parler. D'ici là, on va faire une petite pause musicale avec le dernier morceau de Kim Gordon.
Take my hand, jump on my back, 'cause I'm the man. Pass me a black napkin, please. Dropped out of college, don't have a degree, and I can't get a date. It's not my fault. I'm not bringing home the juice. I'm not bringing home the bacon. It's good enough for Nancy. Good enough
for Nancy. So what if I like the big truck? So what if I like the big truck? Giddy up. Call me toxic, just cause I like your butt. It's not my fault I was born, man. Come on, sweets, take my hand, jump on my back, cause I'm the man. I'm not ideal, I'm a person. I won the war, but lost my way. But I can buy as much as anyone. I like to shave my beard just so, manicure my nails, put on a skirt. But at the end of the day, I lost my way. Don't make me have to hide or explain what I am inside. It's good enough for Nancy. Good enough for Nancy. It's good enough for Nancy. Good enough for Nancy.
Alors, on va parler maintenant des dispositifs qui existent. Alors, on a parlé des associations. Et justement, je me demandais, je me posais une question. On va parler des associations, mais en dehors des associations, quels sont les autres leviers et espaces, Anaïs ?
Leviers et espaces, alors c'est compliqué. En dehors des associations, c'est un peu compliqué parce qu'encore une fois, les structures ne sont pas adaptées à la prise en charge des personnes trans. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'accompagnement. Aujourd'hui, pour pas mal de personnes, le seul point d'entrée possible pour la prise en charge médicale, ça reste rentrer à l'hôpital dans des services psychiatriques. Ce qui n'est pas normal parce qu'il n'y a plus d'enjeux par rapport à ça et ça ne devrait pas être un point d'entrée, mais c'est pour les mineurs en particulier le cas sur ce qu'on peut connaître. Et l'idée, c'est qu'on commence à développer de plus en plus d'autres façons d'accéder à des soins et de l'information autour des transidentités pour les personnes qui le souhaitent, pour les personnes qui veulent engager des transitions. Donc, j'évoquais tout à l'heure le réseau de santé trans qui est à l'origine d'une association qui a été créée à Rennes et qui rassemble et des associations de personnes trans et des médecins qui font de la prise en charge des personnes trans un peu historiquement. On a développé ces formations et les formations que l'on fait qui viennent initialement de l'antenne de Paris sont maintenant moitié en distanciel, moitié en présentiel, ce qui fait qu'il y a à peu près la moitié des médecins qui sont en région. Donc on a développé aussi l'offre de médecins en région et on se base sur des associations locales en région parce qu'il y a plusieurs associations qui ont rejoint le reste et qui elles aussi, à leur tour, commencent à développer ces formations et avoir de la proximité. Je sais qu'il y a des initiatives, même quelques-unes, qui peuvent se faire en dehors de cela. Et dans le cadre du reste, on a fait une formation il n'y a pas longtemps des médecins du planning familial parce D'accord. que les réseaux de du planning familial sont très intéressants pour ça parce que c'est des lieux qui sont identifiés, ce sont des lieux qui sont accueillants, c'est des lieux où on n'aura pas les mêmes enjeux. Et d'ailleurs, le planning familial a fait un engagement militant assez fort avec l'affiche qui, il y a un an et demi, montrait un homme enceint et en disant on peut accompagner au planning familial. Et il y a eu une tornade de bullshit qui est arrivée derrière sur ça. Mais en tout cas, c'est cette idée d'avoir des endroits un petit peu partout en France, en proximité, en complément des réseaux associatifs, mais il y a des trous dans la raquette. Il y a des régions entières où il n'y a pas d'association trans, ou quasiment pas, qui sont parfois reliées à des centres, mais pas tout le temps. Et donc, on est vraiment dans un élément qui reste encore un gruyère énorme. Enfin, je crois que dans le gruyère, il n'y a pas de trou d'ailleurs. Mais bon, bref, alors, je ne suis pas une spécialiste au fromage. Mais en tout cas, c'est un émental énorme, mais ça fait bizarre. Un émental énorme, on ne sait pas de quoi on parle, mais bon, ce n'est pas bien grave. Mais en tout cas, c'est cette idée-là qu'il y a des trous dans la raquette qui sont importantes. Et il y a une autre initiative dans laquelle aussi nos associations sont très engagées. Outrance, depuis 2017, fait partie des réunions de concertation pluridisciplinaire de la Pitié Salpêtrière, Robert Debré, etc., qui accompagne les mineurs trans. Depuis 2020, on a été rejointe par Espace Santé Trans et Accept ST. Et ces trois associations-là, avec la PHP, donc l'assistance publique Hôpitaux de Paris, et avec des chercheurs-chercheuses qui sont sur les enjeux de transidentité, on a créé une plateforme qui s'appelle Trajectoire Jeunes Trans, qui est financée par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et qui permet d'avoir et une charte de bonnes pratiques pour bien prendre en charge les personnes trans, et en particulier les mineurs et les jeunes trans, parce que c'est vraiment très orienté sur les mineurs et les jeunes trans. Et donc de vraiment d'avoir cette prise en charge-là, et en plus de ça, de pouvoir peut-être à terme arriver sur des formations, et entre-temps aussi, de pouvoir faire venir dans les réunions de concertation pluridisciplinaire, qui sont des réunions internes aux hôpitaux, ce qu'on appelle un peu réunion de staff, ce genre de choses, quoi. Je crois que les gens comprennent mieux ça, mais c'est à peu près la même chose, et qui permet de prendre une décision globale, de faire venir des médecins de ville qui peuvent avoir besoin d'avoir un soutien par des spécialistes hospitaliers, sans être obligé d'avoir la prise en charge des personnes directement auprès d'un hôpital, etc. Donc c'est-à-dire qu'on développe un réseau de médecins de ville, de médecins hospitaliers, et pas seulement à Paris, parce que pour le coup le projet initialement est à Paris, mais on a régulièrement des gens qui se connectent à nos RCP. Pour le coup, le Covid a fait un grand bien parce que les gens se sont rendus compte qu'on pouvait faire des visios, et donc c'est top. Ce qui fait qu'on a des gens qui viennent régulièrement de Reims, de Toulouse, de Saint-Denis, même de La Réunion. Enfin, on a des gens qui viennent vraiment de partout et qui se connectent régulièrement en disant voilà, j'ai le cas d'un enfant, d'une enfant qui est à tel ou tel stade et qui a besoin d'être accompagné. Ce qui rassure les professionnels de santé et qui améliore aussi la prise en charge des soins. On reste quand même sur quelque chose qui, du côté des mineurs, reste très, très, très limité, et par le nombre de mineurs concernés, et, parce qu'il y a beaucoup de bruit pour pas grand-chose derrière, et dans la capacité qu'on peut avoir à le faire. Moi, ça fait 5 ans que maintenant je suis dans l'association, et je ne connaissais pas du tout ce milieu-là, et j'ai découvert à quel point c'est compliqué pour les systèmes, les services de santé dans les hôpitaux, de pouvoir ne serait-ce que maintenir un poste, parce que chaque poste n'est financé que par des projets autonomes qu'il faut aller défendre tous les ans en subvention, etc. Mmh. Ce qui fait qu'il y a une instabilité incroyable dans ces cadres-là, alors qu'on devrait avoir des postes en nombre et pérennes pour pouvoir prendre en charge toutes les personnes qui en ont besoin, et qu'on ne soit pas dans un maelstrom dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui n'est pas forcément super sécurisant pour personne finalement, quoi.
Ouais, donc il y a encore trop peu de personnes, en fait, du coup, qui sont...
Ouais. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Moi, j'aurais ajouté aussi que tu disais au début que c'est souvent dans des services de psychiatrie ou pédopsychiatrie, ce qui est le cas. Donc souvent, la porte d'entrée, en fait, c'est le psy. Enfin, le champ psy, souvent, aussi parce que les professionnels de santé, parfois, pour entamer un parcours de transition, vont encore penser qu'une évaluation psychiatrique et un avis psy... qui pourrait garantir qu'il n'y a pas de contre-indication psychiatrique ou psychologique pour pouvoir entamer une transition. Et les personnes trans elles-mêmes, parfois, sont persuadées que c'est encore comme ça que se déroulent les parcours de transition, ce qui n'est pas le cas, en fait. Il n'y a pas besoin d'une attestation psy pour pouvoir débuter un traitement hormonal. Oui.
Au cabinet libéral, dans ma pratique libérale, c'est quelque chose que je remarque aussi. Moi, je reçois un certain nombre d'ados trans, et souvent, les ados eux-mêmes, elles-mêmes, ont intégré l'idée que faire un coming out trans, ça veut dire devoir aller voir un psychologue, parce qu'il y aurait besoin de nécessairement élaborer quelque chose, travailler cette question, et ça vient des parents aussi, mais moi j'ai vu plusieurs ados qui en fait sont venus sans réellement avoir une demande, ou sans qu'il y ait de souffrance, ou sans qu'il y ait de difficultés particulières, voilà, et qui finalement étaient là en me disant, bah voilà, je suis une personne trans, donc je viens consulter, quoi. Et ça peut être à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, ouais. Voilà.
Mais on vient pas de nulle part, en fait. On vient d'une époque, comme on l'a dit avant, dans laquelle la transidentité était considérée comme un trouble mental, donc ça reste encore très très présent. Ouais. C'est très amusant de voir à quel point, dans le groupe de parole qu'on fait pour les mineurs et les ados trans, on a deux groupes en parallèle, hein, pour les mineurs et les ados, et de l'autre pour les parents, j'y reviendrai peut-être un peu après. Et dans le groupe des parents, les parents sont maintenant acceptent et sont unanimes pour dire que le besoin d'aller voir des psys dans le cadre de la transition de leur enfant, bah c'est pour elles et eux, pour les parents, quoi. C'est les parents qui ont besoin d'être assurés, c'est les parents qui ont besoin d'être accompagnés, c'est les proches qui ont besoin d'être accompagnés, souvent plus que les personnes trans qui elles-mêmes sont plutôt à l'aise avec leur identité de genre. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des enjeux de santé mentale individuelle, il y en a plein. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir à quel point le fait que les personnes trans sont encore très liées à ces enjeux-là, ça permet d'avoir peut-être aussi une meilleure sensibilisation des personnes trans sur le besoin et sur l'intérêt qu'il peut y avoir une prise en charge en santé mentale. Et heureusement, quelque part, ça veut dire que c'est une population qu'on a peut-être un peu mieux, qu'on va peut-être dans l'avenir un petit peu mieux accompagner grâce à ça. Mais il y a une hypocrisie crasse sur la façon dont encore certains médecins demandent des attestations psychiatriques où on dit non, mais c'est pas pour diagnostiquer la transidentité, c'est juste pour s'assurer qu'il n'y aurait pas une occurrence qui pourrait faire que la personne pense. Alors on l'a cherché l'occurrence, personne n'a jamais trouvé. Pourtant, ça a été cherché vraiment par beaucoup de monde. Et on est vraiment dans cet enjeu-là. Et à la limite, on pourrait se dire pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, faisons-le pour tout, quoi, parce qu'on pourrait se dire que quelqu'un qui veut être parent, on va peut-être voir s'il n'y a pas une occurrence psychiatrique, qui voudrait que la personne veut avoir un enfant dans un monde comme ça, tout pourri, avec la guerre de partout, etc. Il y a peut-être plus d'enjeux psychiatriques de ce côté-là que du fait d'être une personne trans. Donc en fait, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on pourrait, sur cette logique-là, passer, et ça montre qu'une seule chose, c'est que la société a encore peur de la transidentité. Et quand je dis la société, j'inclus les personnes trans elles-mêmes. C'est pas pour rien qu'on met du temps à engager nos transitions, c'est parce qu'on a peur de ce qu'on ressent, on a peur de qui on est, on a peur de notre identité. Et du coup, on prend un temps fou pour assumer notre identité et pouvoir la vivre au grand jour. Heureusement, avec la visibilité qu'on peut avoir maintenant sur les transidentités, ce temps-là se réduit. Il y a de plus en plus de personnes qui acceptent de le vivre et peut-être un peu plus rapidement. Mais la transphobie intériorisée des personnes trans, c'est énorme, particulièrement forte. Ouais. Et quand on y rajoute en plus d'autres enjeux qui sont des enjeux d'intersectionnalité, alors là, on explose complètement sur la capacité qu'on peut à vivre son identité de genre.
Ce que tu dis, c'est important parce que c'est vraiment un facteur de protection et vraiment de bien-être que de pouvoir, avec une augmentation de la visibilité de la transidentité pour les personnes trans, de pouvoir s'identifier, avoir des modèles positifs d'identification et de pouvoir se dire, telle personne me ressemble, telle personne a une vie épanouie et n'est pas condamnée au suicide, à la mort, à la prostitution, comme certains médias peuvent ou certains... Ouais, médias qu'on peut...
La société.
Voilà, même. Et même société, voilà. Et du coup, c'est en ça que pouvoir rencontrer d'autres personnes trans, en fait, c'est vraiment précieux pour les... Vraiment précieux pour pouvoir s'identifier, pour pouvoir... Voilà.
C'est un truc qu'on dit beaucoup, nous, dans les groupes de parole et les formations qu'on peut faire, c'est de dire que la moitié du chemin est faite par notre présence. Parce que des parents ou des personnes trans qui sont en début de transition, qui voient les personnes trans qui sont plus avancées dans la transition et qui... À la limite, c'est quelqu'un que j'aurais croisé dans la rue, qui a l'air d'être à l'aise, qui n'a pas l'air d'être prostré dans son coin, machin, avec tout le fantasme qu'on peut faire autour des transidentités. Il dit, finalement, si c'est ça, c'est pas grave, quoi. Et on a ça tout le temps. Enfin, là encore, cet après-midi, j'étais sur un groupe de parole pour les personnes trans et proches, et on a eu des parents qui nous disaient, mais quand même, est-ce que pour l'emploi de mon enfant, est-ce qu'il pourrait avoir un métier, un emploi, être embauché, etc. Je dis, mais regardez-nous, on est des gens qui sommes installés, on peut avoir des emplois, on peut avoir des trucs. Il y a plein d'enjeux d'accès à l'emploi pour les personnes trans parce qu'il y a de la transphobie qui est très intégrée dans la difficulté qu'on peut avoir à avoir son historique avec des gens qui vont perdre en mobilité en se disant ça s'est bien passé dans mon service, donc je ne vais peut-être pas changer de service, je ne vais peut-être pas aller postuler dans un autre endroit. Donc il y a plein d'enjeux autour de l'emploi. Il faudrait qu'un jour vraiment on s'y mette aussi assez fortement parce qu'il y a un grand sujet là-dessus. Mais globalement, on a des gens qui finalement sont intégrés dans la société et puis c'est pas un enjeu, quoi.
Ouais. Donc en fait, les espaces aussi d'échange à plusieurs en groupe avec justement un exemple en face avec qui parler sans passer par la case directement entretien psychologique, c'est quand même bien plus, effectivement intéressant et enrichissant. Et on case pas ça directement dans quelque chose qui serait de l'ordre de j'ai un problème, il faut que j'en parle, quoi.
Oui, et pour autant, ça a un effet thérapeutique énorme, en fait. Et il n'y a pas besoin, effectivement, parfois, du psy. Ou alors, le groupe peut d'abord être une porte d'entrée potentiellement, ou pas du tout. Et finalement, la principale problématique des personnes trans, c'est la question du lien social, le rejet. C'est tout ce qui... C'est ça. Et donc, du coup, faire du lien avec d'autres personnes, des pairs ou autres, un entourage, c'est principalement ça qui est thérapeutique, finalement. En tout cas, c'est une grande partie, c'est ça.
Et on le voit beaucoup dans les groupes. Clairement, dans les groupes, c'est ça. C'est la socialisation que l'on peut avoir après. C'est les personnes qui, à la pause, se parlent, les personnes qui se rencontrent. Vous voyez, cet après-midi, typiquement, il y a une mère qui venait pour la première fois à ce groupe-là. Elle était limite en train de pleurer au début, puis finalement, elle s'est marrée tout le temps. Mais en tout cas, c'était... À la fin, quand on termine un tour, on demande aux personnes si elles ont encore un truc à dire. Et elle dit, mais en fait, moi, je suis venue pour, de façon très égoïste, avoir des réponses et être aidée. Et puis, je me suis rendu compte qu'en étant présente et en partageant, finalement, j'ai aidé aussi d'autres personnes. Et que moi-même, qui était une personne qui était en demande et complètement perdue dans le truc, parce que ça faisait 2 mois qu'elle avait appris la transidentité de son enfant, elle-même, elle pouvait aider. Parce qu'elle était là, parce qu'elle parlait, parce qu'elle partageait et parce qu'elle avait les mêmes interrogations que l'autre parent et peut-être des réponses différentes et qui pouvait apporter quelque chose. Donc on voit l'effet bénéfique des groupes de parole et l'effet bénéfique de se dire bah, je ne suis pas seul. Et c'est un peu cette idée de dire bah, y a plein de gens qui sont comme moi, finalement c'est pas aussi dramatique que ça. Et une autre mère disait avant de venir à ce groupe-là, je pensais être exceptionnelle, d'être la seule dans ce cas-là. Puis finalement, je me rends compte que je ne suis pas exceptionnel parce qu'on était 35 personnes. Et puis, un groupe de parole pour les personnes trans en question, le même. Maintenant, on est à 50 ou 60 personnes. Mmh. Bon, bah voilà, d'un seul coup, on se dit, ça fait peur au début parce qu'il fallait beaucoup de monde. Mais finalement, c'est très rassurant de voir beaucoup de monde aussi et de se rendre compte qu'on peut le faire. Je voulais juste faire quand même un petit point, c'est que nous, on est contre l'idée du témoignage parce que finalement, le prisme de la transidentité est souvent fait sous l'élément du témoignage. Et le témoignage, en fait, pose un enjeu parce que ça donne une identité trans et pas toutes les identités trans, et on sait qu'il n'y a pas deux identités trans qui sont semblables. Le côté rôle modèle aussi pose sujet parce qu'il n'y a pas de modèle qui doit y avoir dessus. Moi, je préfère parler de visibilité. C'est un enjeu de visibilité. Savoir qu'il y a des personnes trans qui existent, ça n'oblige pas toutes les personnes trans de pouvoir être out parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas l'être, qui ne veulent pas en parler. Mais ça permet aussi de faire bouger la société et d'accepter qu'on peut être une personne trans ou pas une personne trans d'ailleurs, avec une expression de genre qui peut être en dehors des stéréotypes de genre et casser ces stéréotypes de genre et casser une organisation de la société qui serait ultra genrée avec les hommes d'un côté, les femmes de l'autre et une organisation strictement divisée. Et donc les personnes trans font casser c'est beaucoup de stéréotypes de genre, même si on nous reproche beaucoup de les entériner, en réalité on les pète énormément et c'est génial de les péter. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on se rend compte, nous, dans les générations les plus jeunes qui viennent à nos groupes, que le vrai enjeu maintenant, il est dans la diversité de genre, pas strictement dans un genre binaire de dire j'ai été assigné garçon, je suis une femme ou inversement, mais vraiment dans le spectre du genre et dans cette diversité-là qui casse complètement les stéréotypes, parce que par définition, le stéréotype de la non-binarité n'existe pas, parce qu'il est un mélange de tous les stéréotypes ou d'aucun stéréotype, et c'est là où en fait il y a un espoir extraordinaire pour la suite, de voir comment les choses vont évoluer et comment la société finalement va évoluer grâce à ces personnes-là qui cassent complètement les idées reçues.
Ouais, c'est ce que vous ressentez également dans les échanges lors des permanences.
Oui, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je pense quand même que la question de la père aidance, elle est vraiment très très importante. Même quand on est un professionnel de santé mentale et qu'on accueille des personnes trans pour des psychothérapies individuelles, la question de la représentation et du lien, elle est hyper importante. Et surtout, moi, je vois beaucoup de jeunes trans, donc des ados ou des jeunes adultes. Et effectivement, cette question de pouvoir sortir un petit peu des représentations très binaires de être une femme trans, c'est ça, ou être un homme trans, c'est comme ça, dans lesquelles souvent il y a tout un tas de jeunes qui ne se retrouvent pas, en fait, ou qui n'en sont pas encore là dans l'élaboration, pouvoir rencontrer des pairs, des personnes à qui s'identifier, qui sont diverses et variées, et pouvoir se construire aussi sur le plan identitaire à l'adolescence à travers tout ça, c'est hyper précieux, hyper important, et c'est quelque chose de complémentaire à ce qu'on peut faire en psychothérapie, mais qu'on ne pourra pas apporter en psychothérapie. Nous, alors en plus, moi qui suis une femme cisgenre, ça c'est quelque chose sur le plan de l'identification que je ne peux pas vraiment apporter. Et c'est hyper précieux pour ces personnes-là, même au niveau des permanences d'écoute. Donc les personnes, elles viennent nous voir dans le local interassociatif. D'accord. Et en fait, elles peuvent croiser d'autres associations trans, donc il y a notamment Outrans, mais il y en a d'autres aussi, et pouvoir juste se déplacer, venir au local, croiser d'autres personnes trans, avoir leur rendez-vous psy, mais en fait avoir accès à tout un tas d'autres offres, c'est hyper précieux et hyper thérapeutique en soi.
Espérons que ça puisse être aussi le cas lorsqu'on n'est pas dans une grande ville, et que ça puisse se faire aussi, parce que voilà, on parlait de l'accompagnement aussi dans des structures médicales plus largement connues et ou par des échanges par visio, mais c'est vrai qu'il y a aussi tout un pan à ce niveau-là qui est, enfin, je trouve important, de comment se rassembler et avoir des au dehors de la psychothérapie ce genre d'espace de groupe en dehors, et j'espère ailleurs que aussi dans les villes. On va passer un dernier morceau, et après j'aimerais bien aussi qu'on puisse parler des formations et des autres activités dans les associations. Donc là, le morceau, c'est Idols, pop pop pop.
Thank you.
Continuer à parler ensemble des axes possibles dans les associations. J'aimerais bien pouvoir, voilà, je me tourne vers vous, Niloufar et Kara, qu'on puisse parler et présenter l'espace santé trans selon vos mots à vous. Qu'est-ce que l'association, qu'est-ce que vous faites précisément?
Alors c'est une association qui a pour objectif d'améliorer l'accès des personnes trans à la santé dans une démarche de santé communautaire, donc c'est-à-dire que les personnes d'une communauté s'organisent entre elles pour prendre soin de la communauté. L'idée, c'est qu'il y a trois pôles qui se recouvrent en termes d'action. En fait, il y a un pôle d'autosupport avec un groupe de parole principalement qui s'appelle Trajectoire Trans. Il y a aussi des ateliers de santé sexuelle et reproductive. Et il y a aussi des temps d'accueil informels où juste les personnes sont accueillies autour d'un goûter pour se rencontrer. Il y a aussi des activités de santé mentale avec la permanence psy dont Kara a parlé tout à l'heure. Il y a des groupes d'analyse de pratique pour les professionnels, pour les médecins. Et il y a aussi des formations.
Ouais. C'est énorme déjà.
Et il y a un autre, vas-y Kara, si tu veux aller.
Il y a un troisième pôle qui est celui de la médiation santé qui permet de faciliter l'accès aux soins de santé globaux et d'affirmation de genre à travers la rencontre avec des médiateurs et médiatrices en santé.
D'accord. Et là, dans votre actualité, vous avez justement des portes ouvertes de permanence d'écoute psychologique qui ont lieu le vendredi 29 mars de 14h à 17h, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Alors comment vous pensez justement ces portes ouvertes? Qui est invité? Comment participer? Qu'est-ce qui va être proposé pendant ces permanences?
Alors l'idée, c'est d'accueillir des étudiants et étudiantes notamment en psychologie, mais c'est ouvert aussi
en psy de façon générale.
Ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être les personnes qui se forment à la gestalt-thérapie.
Ouais.
L'idée, c'est d'accueillir des étudiants et étudiantes pour pouvoir parler un petit peu de ce qu'on fait à la permanence psy, de la manière dont on travaille. On s'est dit que ça pouvait être intéressant parce que l'année dernière, on avait pris, moi j'avais pris notamment un stagiaire, mais finalement c'est une seule personne qu'on peut former au travail qu'on fait. Et du coup, on s'est dit que cette année, ce serait plus intéressant d'ouvrir à une sorte de formation pour plusieurs étudiants. Donc là, on a une quarantaine de personnes inscrites, ce qui permettra de déjà faire un petit point théorique sur les approches transaffirmatives. Et de donner une idée un peu concrète de comment on accueille les personnes, ce qui, dans les cursus de psycho, manque. En tout cas, quand moi j'étais étudiante, et c'était il n'y a pas très longtemps, personne ne m'a jamais expliqué comment on accueille une personne trans en entretien pour être respectueux et accueillir correctement. Quoi.
Ouais, de façon plus générale, quels sont les besoins? Qu'est-ce qui existe en Île-de-France, vers qui se tourner? L'idée, c'est principalement ça. Voilà, il reste encore de la place, donc c'est possible de venir.
Inscrivez-vous.
L'idée c'est de présenter donc le pôle psy, mais pas que. C'est un peu les autres activités de l'asso, donc qu'on a brièvement survolé, mais que les personnes concernées qui animent ces différents pôles seront plus à même de présenter. Principalement.
Il y a qui comme professionnel dans les pôles? Il n'y a pas uniquement de psychologues.
Il y a des personnes qui sont. Alors dans les différents pôles, il y a des personnes qui ne sont pas forcément professionnelles de santé, par ailleurs, qui sont vraiment en paire aidance, ont l'idée de partir aussi de leur expertise en tant que personnes concernées et patients-patientes. Il n'y a pas que des professionnels, en fait, dans les différents pôles.
Voir la plupart, c'est des paires aidants, paires aidantes.
Hein. Ouais.
On est quelques psys, il y a les médiateurs, médiatrices en santé. Et puis les autres, c'est des personnes qui font de la paire aidance. C'est la majorité des acteurs, actrices de ST.
Et par rapport aux formations, est-ce qu'il faut forcément être sur place ou on peut avoir accès aux formations à distance?
Il y a des formations à distance, mais ça dépend. Puis il y a des formations qui sont aussi accessibles en ligne. Il y a des MOOC. Vous allez en faire un aussi, vous.
On a fait un.
Ah, déjà sorti, bah voilà. Ouais. Donc, il y a aussi des formations qui sont accessibles en ligne et des ressources aussi facilement accessibles. Mm-hmm. On peut se former assez facilement avec. Mm-hmm. On peut se former facilement, quoi.
Et gratuitement. Voilà. Il y a un MOOC notamment d'Ali Pulen Sans Façon qui est gratuit, d'accord, qui est accessible et il y en a d'autres qui sont payants, mais voilà, c'est possible.
Et est-ce qu'il y a des annuaires aussi de professionnels qui sont mis en ligne ?
Alors, il y a la carte France Genre. Mm-hmm. Qui n'est pas public, mais on peut contacter pour avoir accès à un certain nombre de professionnels. Il y a aussi, du coup, c'est le principe, l'objectif de la permanence d'écoute psychologique, c'est un petit peu ça, c'est d'accueillir les personnes qui ont une demande, quelle qu'elle soit, de soins psy ou autre. En tout cas, ça passe par le psy, mais des fois, ce n'est pas du tout la demande. Et on va évaluer avec la personne et on va la rediriger, en fait, en fonction de ses besoins, vers ce qui est adapté pour elle. Et du coup, on a en tout cas un réseau de professionnels qui sont formés un minimum à l'accueil des personnes trans. Et c'est aussi à ça que vise cette journée de porte ouverte pour les étudiants et étudiantes en psy. C'est de pouvoir donner un peu quelques billes, quelques bases pour pouvoir, par la suite, travailler avec ces personnes-là éventuellement aussi.
Donc on vous invite tous, s'il y a encore de la place, le vendredi 29 mars de 14h à 17h, vous allez sur le site espacesantetrans.fr prendre votre place pour la porte ouverte de la permanence d'écoute psychologique. Et je me tourne vers vous Anaïs, parce qu'on a grandement envie aussi de savoir comment se présente en fait l'association Outrance, principaux axes.
Alors l'association, elle est organisée autour de quatre pôles principaux. Ouais. Le premier, c'est l'autosupport, c'est la base, hein, parce que si on n'avait pas cet autosupport, on n'aurait pas de légitimité pour faire le reste. C'est-à-dire qu'on est nous-mêmes des personnes trans et on vient en aide à des personnes trans. Ça se fait par une adresse mail qui est autosupport@outrance.org, outrance.org, pas .fr, même si le .fr, ça, on peut faire des choses avec, mais en tout cas, autosupport@outrance.org. On reçoit, comme je disais tout à l'heure, vraiment pas mal de mails dedans et on essaie d'y répondre en donnant des adresses de médecins et on demande vraiment que les gens n'hésitent pas à nous demander là-dessus parce que, en fait, ça s'alimente des retours des gens. Donc, parfois, il y a des médecins qu'on conseillait il y a 6 mois et qu'on ne conseille plus aujourd'hui ou inversement. Donc, c'est toujours intéressant de le faire quand on en a besoin et seulement quand on en a besoin et de l'accompagner là-dessus. On fait en plus des groupes de parole. J'ai un peu évoqué groupes de parole pour les personnes trans et ou en questionnement, groupes de parole pour les personnes trans et leurs proches, groupes de parole pour les mineurs et les ados trans, groupes de parole pour les personnes trans avancées dans leur transition et puis groupes de parole pour les personnes trans et leurs partenaires. Toutes les dates et toutes les informations sont sur le site outrance.org. Le deuxième pôle, c'est la formation. On fait énormément de formations. Maintenant, l'année dernière, on a fait 96 interventions différentes, donc ce qui commence à faire beaucoup pour une petite association comme la nôtre. Et on fait les formations vers des professionnels, pas seulement des au départ, on faisait pour les associations LGBTQA+, pour des associations sociales, pour des institutions, genre des services sociaux, des officiers officiers d'état civil dans les mairies, par exemple, qui sont en charge des changements de prénom, des professionnels de l'éducation nationale, des professionnels de santé aussi, mais en groupe constitué sur l'accueil, et c'est une formation qui est complémentaire des formations d'Espace Santé Trans. Nous, on fait plutôt l'accueil, Espace Santé Trans, plus les enjeux de santé mentale. Et d'ailleurs, l'Espace Santé Trans part du principe que les gens ont déjà une base sur l'accueil. Et donc, on a évoqué un MOOC tout à l'heure qui s'appelle Bien accueillir les personnes trans.fr, qui a été développé pour les officiers officières d'état civil, qui va être ouvert là bientôt pour les agents-agentes des caisses primaires d'assurance maladie, et qui est accessible pour tout le monde qui veut avoir au moins une base de formation sur les transidentités. Donc, Bien accueillir les personnes trans.fr. Le troisième pôle d'action, c'est l'édition de brochures. On a pas mal de brochures qui sont sur notre site en téléchargement gratuite. On a une qui s'appelle Hormones Parcours Trans, qui résume vraiment les parcours de transition, qui donne le détail sur en particulier les transitions hormonales, mais pas seulement, et qui va dire les effets des hormones, ce que ça peut impliquer derrière, parce qu'on part du principe que pour pouvoir engager une transition médicale, il ne faut pas le faire parce que quelqu'un d'autre m'a dit qu'il fallait que je le fasse, mais parce que j'en ai réellement besoin et que je sache ce que ça va impliquer derrière. Et donc cette information est un élément essentiel pour la prise en charge des personnes trans et pour que l'autodétermination puisse se faire aussi de façon clair, vraiment, libre et éclairé. On invite assez largement les gens à récupérer cette brochure-là. Et on en a deux autres qui sont DTC, qui est une brochure de santé sexuelle pour les personnes trans masculines et leurs amants, et une sur les opérations que les personnes trans peuvent faire. Et on a un flyer de présentation des transidentités et des actions de l'association. Et puis, je vais terminer sur Le quatrième pôle qui est celui du plaidoyer, de faire avancer les droits des personnes trans, et on agit que ce soit dans les différentes manifestations comme l'existence inter, qui est une sorte de marche des fiertés des personnes trans et intersexes, et on fait aussi, on travaille beaucoup auprès des ministères pour faire avancer les choses. On est association partenaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche depuis le mois de novembre dernier, pour pouvoir accompagner les transidentités dans les ministères et pour pouvoir faire en sorte que les personnes trans puissent être à l'aise dans les établissements de l'enseignement supérieur. Donc ça va passer par des formations, on a des webinaires en ligne qui sont prévus pour les personnels des RH, des directions juridiques par exemple, des formations en ligne qui vont être faites aussi pour les étudiants et étudiantes partout en France. Ouais. On va aller se déplacer un peu partout en France pour aller faire des formations dans les universités et dans les grandes écoles qui dépendent du ministère. On va créer une variante du MOOC, bien accueillir les personnes trans.fr, sur les enjeux d'enseignement supérieur et de recherche, et on travaille sur le plaidoyer aussi pour pouvoir modifier par exemple les procédures de changement de prénom, les procédures d'intégration des personnes trans dans ces établissements-là. On travaille aussi auprès de la DILCRA, on est au comité d'entente LGBT+, du défenseur des droits, et sur la plateforme antidiscrimination.fr, et on invite largement les personnes à aller sur cette plateforme-là s'il y a besoin. Et puis il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres actions que l'on peut faire et qui peuvent être amenées à faire pour faire avancer les droits des personnes trans. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le site outrans.org, vous avez déjà pas mal d'informations, mais il y en a plein d'autres si vous nous envoyez un mail.
C'est déjà extrêmement précieux. Et on n'aura pas le temps, j'imagine, de développer cette question des déplacements qui peuvent être faits au sein des écoles et au sein des universités. Mais en tout cas, voilà, il y a ce sujet-là.
Est-ce qu'on peut prendre 30 secondes sur l'actualité du moment ?
Prenez ce temps-là.
Ok, on va le prendre parce qu'en fait, on a besoin de chacun et de chacune que les gens se renseignent. Aujourd'hui, il y a une campagne qui est lancée contre la prise en charge des mineurs trans par une sénatrice qui s'appelle Jacqueline Eustache-Brignaud, qui a fait un rapport complètement orienté, complètement idéologique, qui refuse la prise en charge des mineurs trans en disant que des contre-vérités scientifiques du début à la fin. Donc ne pensez pas que ce qui a été écrit suite à une étude approfondie. Non, ça a été écrit par un groupe qui s'appelle l'Observatoire de la Petite Sirène, qui s'oppose depuis très longtemps à la prise en charge des mineurs trans et qui d'ailleurs avait fait du lobbying pour que les thérapies de conversion n'intègrent pas les personnes trans, donc qui était contre la loi contre les thérapies de conversion. La même sénatrice a voté contre l'IVG, donc c'est quelqu'un de très progressiste comme vous le voyez. On vous invite assez largement à aller regarder les argumentaires que l'on peut mettre sur notre site ou trans.org. On a un argumentaire qui est dessus en actualité, donc allez vraiment consulter cet argumentaire. Il y a un site qui s'appelle petitesirènes.org où il y a aussi énormément d'informations sur la prise en charge des mineurs. Il y a le site qui n'est pas politique pour le coup, trajectoirejeunetrans.fr, qui est celui de la PHP, où ils avaient beaucoup d'informations aussi et beaucoup de liens vers des études pour la prise en charge des mineurs trans. Et je crois que le ST aussi, vous avez publié un argumentaire sur ce rapport-là. Donc vraiment, renseignez-vous là-dessus.
On ne peut pas mieux dire et mieux conclure là-dessus. Bravo à vous trois. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cet échange précieux. Merci encore.